Interrogé au quartier général après un voyage comportant des efforts et des fatigues intenses, les prisonniers se révélèrent tous être des hommes de très humble origine, des sangs mêlés à l'esprit aberrant. La plupart étaient des marins et ce ramassis de nègres et de mulâtres, antillais ou portugais bravas des îles du Cap-Vert surtout, faisait paraître leur culte hétérogène fortement teinté de vaudou. Sans qu'il fût besoin de pousser très loin l'interrogatoire, il devint pourtant manifeste que l'on avait affaire à quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus ancien qu'un fétichisme nègre. Bien que dégradées et ignorantes, ces créatures défendaient avec une fermeté surprenante l'idée fondamentale de leur exécrable croyance. « Ils adoraient, déclarait-il, les grands anciens, qui avaient existé bien des âges avant qu'il n'y ait eu des hommes, et qui étaient descendus du ciel pour occuper le jeune monde. Ces anciens avaient à présent disparu dans la terre et sous la mer. Mais bien que morts, leurs corps avaient révélé leurs secrets au cours de rêves envoyés au premier homme, et celui-ci avait créé un culte qui ne s'était plus jamais éteint. Ce culte était le leur, et les prisonniers disaient qu'il avait toujours existé et qu'il existerait toujours, observé en cachette en des immensités lointaines ou en des lieux obscurs du monde entier, en attendant le moment où le grand prêtre Cthulhu s'élèverait de sa sombre demeure de la puissante cité engloutie d'Urliée et réduirait à nouveau la terre à sa merci. Un jour, il appellerait, et le culte secret, qui attendrait toujours, le libérerait. D'ici là, rien ne devait être dit de plus. Il existait un secret que la torture même ne saurait arracher. Il n'y avait pas que l'humanité parmi les choses conscientes de la terre, puisque des formes sortaient de l'ombre pour visiter les rares fidèles. Il ne s'agissait pas des grands anciens. Aucun homme n'avait jamais vu les anciens. L'idole gravée était le grand Cthulhu, mais personne ne pouvait dire si, oui ou non, les autres déités étaient précisément comme lui. Nul ne pouvait plus lire, aujourd'hui, l'ancienne écriture, mais les choses se transmettaient de bouche à oreille. Le rituel psalmodié n'était pas un secret. Il n'était jamais prononcé à voix haute, mais murmuré. La mélopée signifiait simplement, dans sa demeure de Rliée la morte, Cthulhu rêve et attend. Seuls deux des prisonniers furent jugés assez sains d'esprit pour être pendus, tandis que le reste était envoyé dans diverses institutions. Tous nièrent avoir eu une part dans les meurtres rituels et affirmèrent que la tuerie était l'œuvre de créatures aux ailes noires, venues les rejoindre depuis leur lieu de rencontre immémorial dans le bois hanté. De ces mystérieux alliés, pourtant, aucune description cohérente ne put être recueillie. Ce que la police parvint à apprendre lui fut surtout communiqué par un métis extrêmement âgé du nom de Castro, qui prétendait avoir gagné d'étranges ports à la voile et s'être entretenu dans les montagnes de la Chine avec des chefs immortels du culte. Le vieux Castro se souvenait de fragments de légendes hideuses qui auraient fait pâlir les spéculations des théosophes et ressortir ce que l'homme et le monde avaient de récent et d'éphémère. Des temps avaient existé où d'autres choses avaient régné sur la terre et où elles avaient eu de grandes cités. Leur reste, prétendait-il avoir appris des Chinois qui ne connaissaient pas la mort, pouvait encore être retrouvé sous forme de pierres cyclopéennes dans les îles du Pacifique. Toutes étaient mortes à des époques très lointaines, avant l'arrivée de l'homme. Mais il existait des procédés magiques qui permettraient de les faire revivre quand les étoiles auraient retrouvé les positions qui convenaient dans le cycle de l'éternité. Elles étaient, à vrai dire, venues elles-mêmes des étoiles et avaient apporté leur représentation avec elles sous forme de figurines. Ces grands anciens, poursuivait Castro, n'étaient pas entièrement faits de chair et de sang. Ils avaient une forme. Cette figurine faite dans les étoiles ne le pouvait-elle pas, d'ailleurs? Mais cette forme n'était pas faite de matière. Ils pouvaient plonger à travers le ciel pour passer d'un univers à l'autre. Mais quand les étoiles leur étaient défavorables, ils ne pouvaient vivre. Cependant, bien qu'ils n'eussent plus été en vie, ils ne mourraient jamais vraiment. Ils demeuraient tous dans leur maison de pierre de la grande cité de Rliée, préservés par les charmes du puissant Cthulhu, et attendant une résurrection glorieuse au moment où les étoiles et la terre seraient une fois de plus prêtes pour eux. Alors, pourtant, il faudrait qu'une force intervienne de l'extérieur pour libérer leur corps. Les charmes qui les préservaient intacts leur interdisaient aussi de faire une démarche initiale, et ils gisaient simplement, en éveil, dans l'obscurité, et ils réfléchissaient, tandis que d'innombrables millions d'années continuaient à se dérouler. Ils savaient tout ce qui se passait dans notre univers, car leur mode de discours était la transmission de pensées. En ce moment même, ils parlaient dans leur tombeau. Quand, après des temps infinis de chaos, les premiers hommes étaient apparus, les grands anciens s'étaient adressés aux plus sensibles d'entre eux en modelant leurs rêves, car c'est ainsi seulement que leur langage pouvait atteindre les esprits attachés à la chair des mammifères. À cette époque, disait Castro à voix basse, les premiers hommes avaient organisé le culte autour de petites idoles que les grands anciens leur avaient révélées. C'étaient des idoles apportées en des aires indistinctes d'obscures étoiles. Ce culte ne disparaîtrait qu'au moment où les étoiles seraient à nouveau comme il le fallait, et que les prêtres secrets pourraient aller chercher le grand Cthulhu dans sa tombe pour qu'il redonne vie à ses sujets, et se remette à gouverner la terre. Il ne serait pas difficile de savoir quand ce temps serait venu, car alors l'humanité serait tout à fait semblable aux grands anciens, libre et fougueuse, au-delà du bien et du mal, les lois et les morales rejetées, tous ses membres criant, tuant, se divertissant joyeusement. C'est alors que les anciens, libérés, leur enseigneraient de nouvelles manières de crier et de tuer, de se divertir et de jouir de leur existence. Puis toute la terre s'enflammerait dans un holocauste d'extase et de liberté. En attendant, le culte, par des rites appropriés, devait maintenir vivant le souvenir de ses voix anciennes et faire pressentir la prophétie qui annonçait leur retour. En des temps plus anciens, au cours de leurs rêves, des hommes choisis s'étaient adressés aux anciens enfermés dans leur tombeau, puis il s'était passé quelque chose. La grande cité de pierre de Rliet, avec ses monolithes et ses sépulcres, s'était engloutie sous les vagues. Les eaux profondes, pleines de ce mystère primitif que la pensée même ne pouvait traverser, avaient interrompu toute communication spectrale. Le souvenir, cependant, n'en était jamais mort. Et les grands prêtres affirmaient que la cité ressurgirait à nouveau lorsque les étoiles seraient dans la position voulue. C'est alors qu'étaient sortis du sol les noirs esprits de la terre, chancis et ombreux, pleins de rumeurs obscures recueillies dans les cavernes, sous des fonds marins inexplorés. D'eux, cependant, le vieux Castro n'osait beaucoup parler. Il s'interrompit d'ailleurs brusquement, et nulle persuasion, nulle ruse, ne purent l'entraîner plus loin dans cette voie. Quant à la taille des grands anciens, il refusa aussi curieusement de la préciser. Du culte, il dit qu'il pensait que le centre s'en trouvait au milieu des déserts dénués de pistes de l'Arabie, là où Irem, la cité des colonnes, rêve, cachée et intacte. Il n'avait aucune parenté avec le culte européen des sorcières et était virtuellement inconnu, si ce n'est de l'assemblée de ses membres. Nul livre n'y avait véritablement fait allusion, bien que les Chinois immortels aient déclaré qu'il existait des phrases à double sens dans le Necronomicon de l'arabe fou Abdul Al-Azred, que les initiés pouvaient lire comme ils l'entendaient, et en particulier ce distique très discuté. « N'est pas mort ce qui a jamais dort, et dans d'étranges éons peut mourir même la mort. » Le Grâce, profondément impressionné et fort désorienté, avait enquêté en vain au sujet de la filiation historique de ce culte. Castro avait sans doute dit la vérité quand il avait affirmé qu'il s'agissait d'un secret absolu. Les spécialistes de l'université de Tulane, n'ayant pu faire la moindre lumière sur le culte ou sur la figurine, le détective était venu consulter les plus hautes autorités du pays et n'avait rien pu entendre de plus que le récit du professeur Webb au sujet du Groenland. L'intérêt fiévreux qu'éveilla au sein de l'assemblée le récit de Le Grâce, corroboré en quelque sorte par la statuette, eut pour suite toute une correspondance échangée entre les participants. La publication officielle de la société n'en fit toutefois guère mention. La prudence doit être le premier souci de ceux qui sont parfois obligés de faire face au charlatanisme et aux impostures. Le Grâce laissa quelque temps sa figurine au professeur Webb, mais à la mort de ce dernier, elle lui fut retournée et demeura en sa possession, où je l'ai vue, il n'y a pas très longtemps. C'était, il faut l'avouer, un objet terrifiant, et proche sans aucun doute de la sculpture de rêve du jeune Wilcox. Que le récit du sculpteur eût plongé mon oncle dans un grand état d'excitation, je n'en étais pas surpris, car quelle pensée avait pu naître en lui quand il avait entendu, lui qui avait connaissance de ce que Legrasse avait appris du culte, ce jeune homme sensible, qui avait rêvé la figurine et les hiéroglyphes exacts de la statuette trouvée dans les marais et de la tablette diabolique du Groenland, lui raconter comment il était parvenu, au cours de ses rêves, à retrouver trois des mots mêmes de la formule récitée par les Esquimaux démonologiques et les métis de Louisiane. Que le professeur Angel ait aussitôt entrepris une enquête aussi complète que possible était éminemment naturel. Personnellement, je soupçonnais pourtant le jeune Wilcox d'avoir entendu parler du culte de manière indirecte et d'avoir inventé une série de rêves pour rehausser et relancer le mystère aux dépens de mon oncle. Les relations de rêve et les coupures de presse rassemblées par le professeur paraissaient, certes, corroborer l'authenticité de ce culte. Le rationalisme de mon esprit et l'extravagance du sujet me poussaient cependant à adopter ce que je pensais être les conclusions les plus raisonnables. C'est ainsi qu'après avoir attentivement étudié le manuscrit une fois encore, puis comparé les notes théosophiques et anthropologiques avec le récit de Legrasse concernant le culte, je me rendis à Providence afin d'aller trouver le sculpteur et de lui adresser des reproches que je considérais comme justifiés pour en avoir imposé avec tant d'audace à un savant âgé. Wilcox vivait toujours seul dans la maison Fleur de Lys de Thomas Street, affreuse imitation victorienne de l'architecture bretonne du XVIIe siècle, dont la façade de stuc était trop ostensible, au milieu des jolies demeures de style colonial de la vieille colline, ainsi qu'à l'ombre du plus beau clocher géorgien de toute l'Amérique. Je le trouvai au travail dans son appartement, et j'admis aussitôt, en voyant les pièces éparpillées çà et là, que son talent avait véritablement quelque chose de profond et d'authentique. On parlera de lui, je crois, un jour ou l'autre, comme de l'un des grands décadents, car il a su cristalliser en argile et saura bientôt traduire dans le marbre les cauchemars et les visions fantastiques qu'Arthur Machen évoque en prose et que Clark Ashton Smith nous dévoile dans ses poèmes et sa peinture. Brun, très mince et d'aspect quelque peu négligé, il se contenta de se retourner lorsque je frappai et me demanda ce qui m'amenait sans se lever. Lorsque je lui eus dit qui j'étais, il manifesta un peu plus d'intérêt, car mon oncle avait excité sa curiosité en l'interrogeant sur ses étranges rêves, sans jamais lui expliquer la raison de ses préoccupations. Je ne fis rien pour l'éclairer plus avant sur ce plan, mais tentai, en usant d'un peu de finesse, de lui tirer quelque chose de plus. En peu de temps, je fus convaincu de son absolue sincérité, car on ne pouvait se méprendre sur la façon dont il parlait de ses rêves. Ceux-ci et les traces qu'ils avaient laissées dans son subconscient avaient profondément influencé son art, et il me montra une statue morbide dont les courbes me firent presque frissonner, tant était grande la puissance de leur noire suggestion. Il ne pouvait se rappeler avoir vu l'original de cet objet ailleurs que dans son propre bas-relief de rêve, et d'ailleurs les lignes s'étaient insensiblement définies sous ses doigts. C'était sans aucun doute la forme géante dont il avait parlé au cours de son délire. Qu'il n'ait véritablement rien su du culte secret, excepté ce que le discours incessant de mon oncle en avait laissé échapper, je m'en rendis très vite compte. Aussi, une fois de plus, je tentai de découvrir de quelle manière il avait bien pu recevoir ces bizarres impressions. Il évoqua ses rêves de façon étrangement poétique. Il me fit voir avec une infinie et terrible précision la cité cyclopéenne de pierres vertes et gluantes, dont la géométrie, dit-il curieusement, était tout à fait erronée. Puis il me laissa entendre, après une attente apeurée, l'appel constant, à demi-mental, qui provenait de sous la terre. Cthulhuftagen. Cthulhuftagen. Ces mots avaient fait partie du rituel redoutable qui évoquait la veille de Cthulhu à l'intérieur de son tombeau de pierre dans Riel la morte. Et en dépit de mes convictions rationalistes, je me sentais profondément troublé. Wilcox, j'en étais certain, avait dû entendre parler du culte par hasard et en avait aussitôt perdu le souvenir dans le flot de ses lectures et de ses rêveries d'une égale étrangeté. Plus tard, étant donné sa nature impressionnable, cette idée s'était exprimée de manière subconsciente dans le cours de ses rêves, puis dans le bas-relief et la terrible statue que je contemplais à présent. Son imposture à l'égard de mon oncle avait donc été bien innocente. Ce jeune homme avait tout à la fois quelque chose d'un peu affecté et d'un peu cavalier, qui m'aurait empêché de jamais sympathiser avec lui. Mais je consentais volontiers maintenant à lui reconnaître une personnalité vraie et de l'honnêteté. J'étais donc bien disposé à son égard quand je pris congé de lui et lui souhaitais tout le succès que son talent lui promettait. La question du culte continuait toujours à me passionner, et j'imaginais parfois que j'allais devenir célèbre pour avoir entrepris des recherches sur son origine et sur ce qui le rattachait aux autres. Je me rendis à la Nouvelle-Orléans, m'entretins avec le Grasse et d'autres membres du groupe de l'expédition d'autrefois. Je vis l'effrayante figurine, et interrogeai même les prisonniers métis qui survivaient encore. Le vieux Castro, malheureusement, était mort depuis quelques années. Ce que je tins alors de manière si vivante et de première main, bien qu'il n'y eût rien eu là de plus en réalité qu'une confirmation détaillée de ce que mon oncle avait écrit, excita plus encore ma curiosité. J'étais persuadé en effet de me trouver sur la trace d'une religion très réelle, très secrète et très ancienne, dont la découverte allait peut-être faire de moi un anthropologue de renom. Je conservais encore une attitude d'absolu matérialisme, comme je souhaiterais qu'elle le fût encore, et je repoussais, avec une perversité inexplicable, la coïncidence qui existait entre les notes de rêve et les curieuses coupures rassemblées par le professeur Angel. L'une des choses que je commençais à soupçonner, et que je crains à présent de savoir, c'est que la mort de mon oncle était loin d'avoir été naturelle. Il était tombé dans une rue étroite et pentue qui prenait naissance près d'anciens quais où grouillaient des métis étrangers après avoir été bousculés avec insouciance par un marin noir. Je n'oubliais pas le sang mêlé et les inclinations marines des membres du culte de la Louisiane, et je n'aurais pas été surpris d'entendre parler de méthodes secrètes et d'aiguilles empoisonnées, utilisées avec aussi peu de scrupules et connues depuis aussi longtemps que les croyances et les rites occultes. Le Grasse et ses hommes, il est vrai, avaient été laissés en paix. En Norvège, en revanche, un marin était mort qui avait vu certaines choses. La nouvelle que mon oncle entreprenait des enquêtes approfondies, après avoir eu en main les renseignements fournis par le sculpteur, n'était-elle pas parvenue à de sinistres oreilles? Je crois que le professeur Angel est mort parce qu'il en savait trop, ou parce qu'il était susceptible d'en apprendre trop. Il reste à savoir si je partirai comme il l'a fait, car je sais bien des choses à présent. La folie venue de la mer. Si le ciel souhaite jamais m'accorder une faveur, ce sera d'effacer totalement les conséquences du simple hasard qui me fit jeter un regard sur un fragment de journal posé sur une étagère. Je n'aurais pu le découvrir au cours de ma revue de presse quotidienne, car il s'agissait d'un vieux numéro d'un journal australien, le Sydney Bulletin du 18 avril 1925. Il avait même échappé à l'agence de coupure de presse qui, à l'époque de sa parution, recueillait avidement des documents pour alimenter les recherches de mon oncle. J'avais en grande partie renoncé à réunir de nouveaux éléments sur ce que le professeur Angel avait appelé le « culte de Cthulhu ». Et j'étais venu passer quelques jours à Paterson, dans le New Jersey, chez l'un de mes amis, un homme d'une grande culture. Il était conservateur d'un musée local et minéralogiste de renom. Un jour, comme j'examinais les échantillons de réserves abandonnés au hasard, sur les étagères d'une pièce située à l'arrière du musée, mon œil s'arrêta sur une curieuse photo de l'un des vieux journaux étalés sous les pierres. C'était le Sydney Bulletin auquel j'ai déjà fait allusion, car mon ami avait des correspondants dans tous les pays étrangers imaginables. Quant à la photo, c'était une similigravure d'une hideuse figurine de pierre, presque identique à celle que Le Grasse avait trouvée dans les marécages. Je débarrassai avec impatience la page des précieux spécimens, puis parcourus rapidement cet article. Je fus d'ailleurs déçu de m'apercevoir qu'il n'était guère long. Ce qu'il laissait entendre était pourtant de la plus haute importance pour ce qui concernait la quête que je menais alors plus qu'au ralenti. Je déchirai donc soigneusement la feuille afin de passer aussitôt à l'action. Le texte en était le suivant. Mystérieuse épave retrouvée en mer. Le vigilant vient d'arriver remorquant un yacht désemparé armé en Nouvelle-Zélande. Un survivant et un mort retrouvés à bord. Récit d'une bataille désespérée et de mort survenue en mer. Un marin sauvé refuse tout détail sur étrange aventure. Curieuse idole trouvée en sa possession. Enquête doit suivre. Le cargo vigilant de la compagnie Morrison, en provenance de Valparaiso, est arrivé ce matin à son quai de Darling Harbour, remorquant le yacht à vapeur Alert de Dunedin en Nouvelle-Zélande, touché et avarié, mais fortement armé, qu'il avait aperçu le 12 avril par 34°21 de latitude sud et 152°17 de longitude ouest, et qui avait à son bord un homme en vie et un mort. Le vigilant avait quitté Valparaiso le 25 mars. Il s'est trouvé poussé, le 2 avril, très au sud de sa route par des tempêtes exceptionnelles et des vagues monstrueuses. Le 12 avril, l'épave venait en vue, et bien qu'apparemment déserte, on devait découvrir, après être monté à son bord, un unique survivant dans un état de demi-délire et un autre individu, mort, selon toute évidence, depuis plus d'une semaine. L'homme qui vivait serrait contre lui une horrible idole de pierre d'origine inconnue, d'environ 30 cm de haut, dont la nature laisse les spécialistes de l'Université de Sydney, de la Royal Society et du Musée du College Street dans une perplexité complète. Le survivant affirme l'avoir trouvé dans la cabine du yacht, à l'intérieur d'un petit reliquaire gravé, d'un modèle courant. Cet homme, après être revenu à lui, a raconté une histoire de piraterie et de meurtre de la plus haute étrangeté. Il s'agit de Gustav Johansen, un Norvégien, d'une intelligence certaine, lieutenant sur la goélette à deux mâts, l'Emma, d'Auckland, parti pour Callao le 20 février, avec un effectif de 11 hommes. L'Emma, déclare-t-il, a été retardée et déviée très au sud de sa route, par la grande tempête du 1er mars, et le 22 mars, par 49°51 de latitude sud et 128°34 de longitude ouest, elle a rencontré l'alerte, armée par un étrange équipage de Kanaks et de Métis à l'air mauvais. Ayant reçu l'ordre péremptoire de faire demi-tour, le capitaine Collins a refusé. Sur ce, l'étrange équipage s'est mis à tirer avec sauvagerie, sans avertissement, sur la goélette, avec une très lourde batterie de canons de cuivre qui faisait partie de l'équipement du yacht. Les hommes de l'Emma ont montré du courage, dit le survivant. Et bien que la goélette ait commencé à couler après avoir été atteinte sous la ligne de flottaison, ils sont parvenus à se ranger le long du bord de l'ennemi, à l'aborder et à s'empoigner avec l'équipage sauvage sur le pont du yacht. Puis ils se sont vus contraints d'achever tous les hommes qui le composaient, étant donné qu'ils leur étaient légèrement supérieurs en nombre, à cause de la manière particulièrement détestable et farouche qu'ils avaient de se battre, bien qu'ils eussent été assez peu adroits. Trois des hommes de l'Emma, dont le capitaine Collins et le lieutenant Green, ont été tués. Les huit hommes qui restaient sous les ordres du lieutenant Johansen ont alors entrepris de faire naviguer le yacht qu'ils avaient capturé et de poursuivre dans leur direction première pour voir s'il y avait eu la moindre raison de leur ordonner de faire demi-tour. Il semble que le lendemain, ils aient levé l'ancre et abordé sur une petite île, bien qu'il n'y en ait pas de connus dans cette partie de l'océan. Que six des hommes soient morts Dieu sait comment, alors qu'ils étaient à terre, bien que Johansen ait de curieuses réticences au sujet de cette partie du récit et se contente de dire qu'ils sont tombés dans une faille de rocher. Plus tard, paraît-il, son compagnon et lui sont retournés à bord du yacht et ont tenté de le faire marcher, mais ils ont été harcelés par la tempête du 2 avril. Entre ce moment et celui où il a été sauvé, le 12 avril, l'homme ne se rappelle pas grand-chose, et il ne se souvient même pas quand William Bridden, son compagnon, est mort. On ne peut attribuer la mort de Bridden à aucune cause apparente, mais elle a probablement été le résultat d'une surexcitation ou d'une trop longue exposition. Des informations envoyées par câblogramme de Dunedin précisent que l'alerte y était bien connue pour sa pratique du cabotage entre les îles, et qu'il avait mauvaise réputation sur les quais. Il était la propriété d'un curieux groupe de métis dont les réunions fréquentes et les rencontres nocturnes dans les bois excitaient beaucoup la curiosité. Il avait, en outre, levé l'ancre en grande hâte, juste après la tempête et les secousses sismiques du 1er mars. Notre correspondant d'Auckland indique que l'Emma et son équipage y avaient une excellente réputation et que l'on y décrit Johansen comme un homme sobre et honorable. L'amirauté va ouvrir dès demain une enquête sur toute l'affaire, et tous les efforts seront faits pour persuader Johansen de parler plus librement qu'il ne l'a fait jusqu'à maintenant. C'était tout, outre la photo de la figurine infernale. Mais quelle chaîne de réflexion cela n'avait-il pas déclenché dans mon esprit? Voilà qui constituait de nouveaux trésors de renseignements à propos du culte de Cthulhu, et la confirmation qu'il avait d'étranges intérêts sur mer comme sur terre. quel motif avait pu pousser les membres de l'équipage hybride à donner l'ordre à l'Emma de faire demi-tour alors qu'ils étaient en train de naviguer avec leur affreuse idole? Quelle était l'île inconnue sur laquelle 6 hommes de l'Emma étaient morts et au sujet de laquelle le lieutenant Johansen était si peu disert? Qu'avait apporté l'enquête du vice-amiral et que savait-on de ce dangereux culte à Dunedin? Et, plus surprenant que tout, qu'est-ce qui reliait de façon profonde et plus que naturelle toutes ces dates entre elles et qui donnait une signification maligne, désormais indéniable, aux divers événements si soigneusement relevés par mon oncle? C'était le 1er mars, notre 28 février, que le tremblement de terre et la tempête étaient survenus. De Dunedin, l'Alert et son répugnant équipage avaient pris avec impatience le départ, comme s'ils avaient été impérieusement sommés quelque part. Et de l'autre côté de la terre, des poètes et des artistes s'étaient mis à rêver d'une étrange et sombre cité cyclopéenne, tandis qu'un jeune sculpteur modelait dans son rêve la forme du redoutable Cthulhu. Le 23 mars, l'équipage de l'Emma avait atterri sur une île inconnue et y avait laissé 6 de ses hommes pour morts. En outre, à cette date, les rêves des hommes sensibles avaient pris une vivacité accrue, et l'angoisse que provoquait en eux la poursuite mauvaise d'un monstre géant les avait assombris. Cependant qu'un architecte devenait fou et qu'un sculpteur sombrait brusquement dans le délire. Et que dire de la tempête du 2 avril, date à laquelle tous les rêves à propos de l'humide cité avaient cessé et où Wilcox était sorti indemne de l'esclavage de son étrange fièvre? Que dire de tout cela et de ces allusions que le vieux Castro avait faites à des anciens, nés dans les étoiles qui se seraient enfoncés sous la mer, et de leur règne qui allait venir, de leur culte fidèle et de la maîtrise qu'ils avaient des rêves? Étais-je parvenu sur le bord d'un abîme d'abomination cosmique insupportable pour l'homme? S'il en était ainsi, elle ne devait être qu'horreur de l'esprit, car d'une manière ou d'une autre, le 2 avril avait mis fin à la monstrueuse menace, quelle qu'elle eût été, qui avait entrepris le siège de l'âme de l'humanité. Ce soir-là, après une journée passée à envoyer des télégrammes et à prendre des dispositions urgentes, je dis adieu à mon hôte et pris le train pour San Francisco. En moins d'un mois, je me trouvais à Dunedin, où cependant je découvris que l'on savait peu de choses sur les étranges membres du culte qui avaient fréquenté les vieilles tavernes du port. La pègre des quais était bien trop commune pour mériter qu'on lui accorde une attention particulière. Mais on m'y parla tout de même de façon vague d'un voyage qu'auraient fait ces métis à l'intérieur du pays, pendant lequel on avait perçu un lointain roulement de tambour et noté la présence de flammes rouges au loin, dans les collines. À Auckland, j'appris que Johansen, dont les cheveux couleur de paille étaient devenus blancs, était revenu, après avoir subi un interrogatoire peu poussé et peu concluant à Sydney, qu'il avait alors vendu sa petite maison de West Street et qu'il était retourné en bateau avec sa femme à Oslo, où se trouvait son ancien domicile. De son expérience bouleversante, il n'avait rien voulu dire de plus à ses amis qu'il ne l'avait fait aux fonctionnaires de l'amirauté, et la seule chose qu'il purent me confier fut son adresse à Oslo. Je me rendis alors à Sydney et m'entretins inutilement avec les marins et les membres du conseil de la vice-amirauté. Je vis l'Alerte, vendue et convertie à un usage commercial, au Circular Quay de Sydney Cove. Mais la contemplation de ces lignes, qui ne révélaient rien, ne me fut d'aucun secours. La figurine accroupie, avec sa tête de sèche, son corps de dragon, ses ailes écailleuses et son piédestal couvert d'hiéroglyphes, avait été remise au musée d'Hyde Park. Je l'examinai longuement et très en détail, découvrant que c'était un objet maléfique mais d'un travail très raffiné, qu'elle recelait le même profond mystère, la même étrangeté supraterrestre dans sa matière que j'avais déjà remarquée sur le spécimen plus petit que possédait le Grasse. Les géologues, me dit le conservateur, s'étaient aperçus qu'elle leur présentait un monstrueux casse-tête. Ils juraient en effet que notre monde ne contenait aucune roche comme celle-là. Je songeai alors avec un frisson à ce que le vieux Castro avait dit à Legrasse au sujet des grands anciens originels. Ils sont venus des étoiles et ont apporté leurs images avec eux. Secoué par une révolution mentale comme je n'en avais encore jamais connue auparavant, je résolus alors d'aller rendre visite au lieutenant Johansen à Oslo. Je pris un bateau jusqu'à Londres et me rembarquai aussitôt pour gagner la capitale norvégienne. Par un jour d'automne, je mis donc le pied sur les quais bien entretenus, à l'ombre de Legeberg. La maison de Johansen, comme je l'appris, se trouvait dans la vieille ville du roi Harald Hardrada, celle qui conserva vivant le nom d'Oslo tout au long des siècles, alors que le reste de la cité, plus important, se parait du nom de Christiania. Après un voyage rapide en taxi, je frappai, le cœur battant, à la porte d'un vieil immeuble très soigné à la façade crépie. Ce fut une femme au visage triste, vêtue de noir, qui vint m'ouvrir. Je sentis la déception m'envahir lorsqu'elle me dit, en un anglais hésitant, que Gustav Johansen n'était plus. Il n'avait guère survécu à son retour, disait sa femme, car ce qui lui était arrivé en mer en 1925 l'avait brisé. Il ne lui avait rien révélé de plus que ce qu'il avait déclaré en public, mais il avait laissé un long manuscrit. « Des questions techniques », avait-il dit, rédigé en anglais afin, de toute évidence, de la protéger des risques d'une lecture accidentelle. Au cours d'une promenade le long d'un étroit passage proche du dock Gothenburg, une balle de papier tombée d'une fenêtre sous les toits l'avait renversée. Deux matelots, des lascars, l'avaient aussitôt aidé à se relever, mais, avant que l'ambulance n'ait pu arriver, il était mort. Les docteurs n'avaient pu découvrir de cause qui expliquât sa mort de façon satisfaisante. Aussi avait-il attribué celle-ci à un trouble cardiaque et à l'affaiblissement de sa constitution. Je sentis alors me prendre aux entrailles cette noire terreur qui ne me quittera plus jusqu'à ce que, à mon tour, j'aie trouvé le repos, de manière accidentelle ou autrement. Persuadant la veuve que les questions techniques de son mari me concernaient suffisamment pour qu'elle me livre accès à son manuscrit, j'emportai ce document et me mis à le lire sur le bateau de Londres. C'était un texte simple et plutôt décousu, l'effort naïf d'un marin pour rédiger un journal après coup, où il s'évertuait à évoquer, jour après jour, cet ultime et terrible voyage. Je ne peux le transcrire verbatim, tant l'obscurité du style et les redondances y sont grandes, mais j'en donnerai l'essentiel afin que l'on comprenne pourquoi le bruit de l'eau contre les flancs de mon bateau m'était devenu si insupportable que je me bouchais les oreilles avec du coton. Johansen, Dieu merci, ne savait pas tout à fait, même s'il avait vu la cité et la chose. Mais moi, il ne me sera plus possible de dormir jamais paisiblement, car je songerai aux horreurs qui demeurent tapies sans cesse derrière la vie, à travers le temps et l'espace, à ces blasphèmes impies, venus d'étoiles plus anciennes qui rêvent sous la mer, connus et encouragés par un culte de cauchemars impatients et tout prêts à les lâcher sur le monde dès qu'un autre tremblement de terre fera à nouveau remonter leur monstrueuse cité de pierre au soleil et à l'air. Le voyage de Johansen avait commencé exactement comme il l'avait dit à la vice-amirauté. L'Emma, sur l'Est, était sortie d'Auckland le 20 février. Puis elle avait éprouvé la pleine force de la tempête née d'un tremblement de terre qui avait dû soulever, du fond de la mer, les horreurs qui avaient envahi les rêves des hommes. Une fois revenu sous contrôle, le bateau avançait bien quand, le 22 mars, il avait été arrêté par l'alerte. Et je sentais quels avaient été les regrets du lieutenant lorsqu'il décrivait le bombardement subi et la manière dont il avait coulé. Des noirs suppôts du culte qui se trouvaient sur l'alerte, il parle avec une horreur significative. Il y avait une qualité particulièrement abominable en eux, qui faisait que leur destruction était presque un devoir. Et Johansen montre un étonnement ingénu devant l'accusation de cruauté portée contre ses compagnons et lui lors des délibérations de la commission d'enquête. C'est alors que, poussés par la curiosité, les hommes poursuivent leur route sous la direction de Johansen dans le yacht qu'ils avaient capturé, aperçoivent un grand pilier de pierre qui sort de la mer, et par 47,9 degrés de latitude sud et 126,43 degrés de longitude ouest, tombe sur une côte faite de boue mêlée, de vases et d'une maçonnerie cyclopéenne couverte d'algues, qui ne peut être que la substance tangible de la suprême terreur de la terre. La cité au corps mort, la cité de cauchemar, reliée, bâtie depuis des éons infinis, avant que toute histoire ne commence, par les formes immenses et repoussantes venues de sombres étoiles qui s'étaient infiltrées sur la terre. C'est là que reposent le grand Cthulhu et ses hordes, cachés dans des tombes vertes et gluantes. C'est de là qu'ils peuvent envoyer, enfin, après d'incalculables cycles, les pensées qui répandent la frayeur dans les rêves des êtres sensibles, qu'ils en appellent impérieusement aux fidèles pour qu'ils accomplissent leur pèlerinage de libération et de restauration. Tout cela, Johansen ne le soupçonnait pas. Mais Dieu sait qu'il allait bientôt en apprendre suffisamment. Je suppose que seul un sommet de montagne, la hideuse citadelle couronnée du monolithe où le grand Cthulhu était enterré, sortit en réalité des eaux. Quand je pense à l'étendue de tout ce qui peut être en train de nourrir des rêves là-dessous, je serais presque tenté de me supprimer tout de suite. Johansen et ses hommes furent impressionnés par la majesté cosmique de cette Babylone ruisselante des démons très anciens, et ils durent deviner sans aide qu'il y avait là quelque chose qui n'était ni de notre planète, ni d'aucune autre planète sensée. L'angoisse, devant l'incroyable taille des blocs de pierre verdâtre, devant la hauteur vertigineuse du grand monolithe gravé, devant la stupéfiante identité des statues et des bas-reliefs colossaux avec l'étrange figurine trouvée dans la chasse à bord de l'Alerte, est sensible, poignante même, dans chaque ligne de la description pleine d'effroi du lieutenant. Ignorant tout du futurisme, Johansen atteint quelque chose qui y ressemble fort lorsqu'il parle de la cité. Au lieu de décrire, en effet, des structures ou des bâtiments précis, il se contente d'insister sur les impressions générales de vastes angles et de surfaces de pierre, surfaces trop grandes pour appartenir à rien qui convienne ou soit approprié à cette terre. En outre, impie, car chargé d'horribles images sculptées et de hiéroglyphes. Je mentionne son évocation des angles parce qu'elle me rappela une chose que Wilcox m'avait dite à propos de ses terribles rêves. Il avait précisé que la géométrie du lieu de rêve qu'il avait aperçu était anormale, non euclidienne, et qu'elle évoquait de façon abominable des sphères et des dimensions distinctes des nôtres. Et voilà qu'à présent, un matelot illettré avait une réaction toute semblable au moment où il contemplait la terrible réalité. Johansen et ses hommes atterrirent sur une bande de boue en pente de cette monstrueuse acropole, et ils grimpèrent sur des blocs titanesques, glissants et limoneux, qui n'auraient jamais pu appartenir à des degrés faits pour des mortels. Le soleil même paraissait déformé dans le ciel lorsqu'on l'apercevait, à travers les miasmes polarisants qui sourdaient de cette perversion trempée de mer, et la menace dénaturée, l'attente angoissante, se tapissait en ricanant dans ces angles follement insaisissables de roches taillées, où un second regard permettait de voir une concavité là où le premier avait révélé une convexité. C'est un sentiment très proche de la terreur, qui s'était emparé de tous les explorateurs avant qu'ils n'aient rien vu de plus défini que de la roche, de la vase et des algues. Chacun d'eux aurait fui s'il n'avait craint d'encourir le mépris des autres, et c'était avec peu d'empressement qu'ils avaient cherché, en vain, il est vrai, quelques souvenirs à emporter. Ce fut Rodriguez, le Portugais, qui fit l'ascension du pied du monolithe et qui poussa un cri devant ce qu'il avait trouvé. Le reste le suivit et regarda avec curiosité l'immense porte de bois gravée avec le bas-relief de Sèche-Dragon, désormais familier. C'était, dit Johansen, comme une grande porte de grange, et ils se rendaient tous compte qu'il s'agissait d'une porte, étant donné le linteau, le seuil et les montants ornés qui l'encadraient, même s'ils étaient divisés quant à savoir si elle était montée à plat, comme une trappe, ou de biais, comme une porte de cellier. Ainsi que Wilcox l'avait déclaré, la géométrie de ce lieu était complètement erronée. On ne pouvait être certain que la mer et le sol se trouvaient bien à l'horizontale, ce qui expliquait que la position relative de tout le reste ait pu paraître d'une variabilité fantasmagorique. Bryden poussa sur la pierre en différents endroits, sans résultat. Donovan tâta alors délicatement le pourtour, pesant sur chaque point au fur et à mesure qu'il avançait. Il grimpa interminablement le long du grotesque chambranle de pierre, c'est-à-dire que l'on pourrait parler de grimper si la chose n'avait été, après tout, horizontale. Et les hommes se demandèrent comment il pouvait y avoir une porte aussi immense dans tout l'univers. Puis, très doucement, très lentement, le panneau de presque un demi-hectare commença à basculer vers l'intérieur, à partir du sommet. Ils virent ainsi qu'il était équilibré. Donovan glissa ou se propulsa comme il le put vers le bas, à moins que ce n'eût été le long du montant. Puis il rejoignit ses camarades. et tous observèrent l'étrange recul du portail monstrueusement gravé. Dans cette vision fantastique de distorsion prismatique, il se déplaçait de manière anormale en suivant la diagonale, si bien que toutes les règles de la matière et de la perspective en paraissaient bouleversées. L'ouverture était noire, d'une obscurité presque tangible. Ces ténèbres avaient, en vérité, une qualité positive. Elles conservaient en effet dans l'ombre les parties des murs intérieurs qui auraient dû être révélées. Et elles commençaient même à cracher une sorte de fumée, née d'un emprisonnement vieux de temps d'éons, qui assombrissait visiblement le soleil au moment où celui-ci s'éloignait, furtif, dans le ciel rétréci et gibbeux, en battant ses ailes membraneuses. L'odeur qui s'élevait de ces profondeurs nouvellement découvertes était intolérable. Et Hawkins, enfin, qui avait l'oreille sensible, dit qu'il croyait percevoir tout en bas le son désagréable qu'auraient produit des pas sur un sol détrempé. Tous écoutèrent. Et ils écoutaient tous encore lorsqu'elle s'avança, pesante, et leur apparut au moment où elle faisait glisser en tâtonnant son immensité verte, gélatineuse, par l'ouverture noire, afin de gagner l'air pollué, sorti de cette cité de poison et de folie. La main du pauvre Johansen l'avait presque trahi quand il avait rédigé ceci. Des 6 hommes qui ne regagnèrent jamais le bateau, ils pensent que 2 succombèrent tout bonnement à la peur en cet instant maudit. La chose ne peut être décrite. Il n'existe aucun langage pour traduire de tels abîmes de démence aiguë et immémoriale, d'aussi atroces contradictions de la matière, de la force et de l'ordre cosmique. Une montagne s'était mise en marche et progressait en trébuchant. Dieu ! Comment s'étonner que, de l'autre côté de la Terre, un grand architecte soit devenu fou, et que le pauvre Wilcox ait déliré de fièvre en cet instant télépathique ? La chose des idoles, le verre, le gluant produit des étoiles, s'était réveillé pour venir réclamer ce qui lui appartenait. Les étoiles étaient à nouveau dans la juste position, et ce qu'un culte célébré depuis des âges n'avait pu faire à dessein, un groupe d'innocents marins l'avait fait par accident. Au bout de 20 millions d'années, le grand Cthulhu était à nouveau libre et ivre de joie. Trois hommes furent balayés par les griffes molles avant qu'aucun d'eux n'ait pu tourner les talons. Dieu leur accorde le repos, si le repos peut encore être dans l'univers. Il s'agissait de Donovan, de Guerrera et d'Angstrom. Parker glissa, alors que les trois autres plongeaient frénétiquement à travers des étendues infinies de roches incrustées de verre en direction du bateau. Et Johansen affirme qu'il fut absorbé par un angle de maçonnerie qui n'aurait pas dû être là. Un angle qui était aigu et qui se comporta comme s'il avait été obtus. Ainsi, seuls Bryden et Johansen parvinrent au canot et ramèrent désespérément vers l'alerte, tandis que la monstruosité montagneuse descendait lourdement sur les roches glissantes et hésitait, embarrassée, au bord de l'eau. On n'avait pas laissé la vapeur tomber complètement, en dépit du départ de tout l'équipage pour le rivage. Et il ne fallut que quelques instants d'une précipitation fiévreuse du haut en bas, entre la roue du gouvernail et les machines, avant que l'alerte ne soit mise en route. Lentement, parmi les horreurs déformées de l'incroyable scène, le bateau commença à brasser l'écume des eaux létifères. Cependant, sur la maçonnerie du rivage charnier qui n'était pas de cette terre, la chose titanesque venue des étoiles bavait et bégayait, tel Polyphème maudissant le navire du fugitif Ulysse. Alors, plus courageux que le cyclope de la légende, le grand Cthulhu se laissa glisser, tout graisseux, dans la mer et se lança à leur poursuite, tandis que ses larges enjambées de puissance cosmique faisaient naître les vagues. Bryden regarda en arrière et sombra dans la folie, riant par intervalles, jusqu'à ce que la mort le surprenne une nuit dans la cabine, tandis que Johansen errait en déliant. Johansen, pourtant, n'avait pas renoncé encore. sachant que la chose était certainement capable de rattraper l'alerte tant que la pression ne serait pas complète, il résolut de se fier à une ultime chance. Mettant la machine à toute vitesse, il fila comme l'éclair sur le pont et renversa la barre. Il y eut un puissant tourbillon, une écume sur l'océan fétide. Et, comme la vapeur montait de plus en plus, le vaillant Norvégien précipita son bateau sur la masse gélatineuse qui le pourchassait et s'élevait au-dessus des vagues moutonneuses et impures comme la poupe d'un galion démoniaque. L'effroyable tête de sèche, dont les tentacules se contorsionnaient, atteignit presque le beaupré du solitiot. Mais Johansen poursuivit sa route sans relâche. Il y eut un bruit d'éclatement, rappelant l'explosion d'une vessie. Une fange bourbeuse se déversa, comme si un poisson-lune avait été fendu. Une odeur méphitique se répandit, comme si un millier de tombes avaient été ouvertes. Et un tintamarre se produisit, tel que le chroniqueur renonça à le transcrire. Un instant, le bateau fut souillé par un âcre, un aveuglant nuage vert. Puis il n'y eut plus qu'un bouillonnement venimeux à la poupe où... Dieu du ciel ! La plasticité répandue de ce produit innommable de l'espace était en train de se recombiner, nébuleuse, dans sa détestable forme originelle, cependant que la distance qui le séparait de l'alerte s'accroissait à chaque seconde, comme le bateau gagnait de la vitesse grâce à la vapeur qui montait. Ce fut tout. Johansen se contenta ensuite de rêver sombrement devant l'idole de la cabine et de se charger des simples problèmes de nourriture qui se posaient à lui-même et au fou rieur qui se trouvait à ses côtés. Il ne tenta plus de naviguer après sa première fuite audacieuse. La réaction semblait en effet avoir enlevé quelque chose à son âme. Vint alors la tempête du 2 avril et les nuages s'amoncelèrent autour de sa conscience. Il éprouva alors une sensation de tourbillon fantomatique à travers les gouffres liquides de l'infini, de chevauchées vertigineuses sur la queue d'une comète à travers des univers tournoyants, de précipitations hystériques de l'enfer à la lune et de la lune à l'enfer, le tout accompagné par le cœur des autres dieux, riant aux éclats, convulsés, hilares, et des lutins verts moqueurs du Tartare qui portent des ailes de chauve-souris. Les secours, quand ils vinrent, l'arrachèrent à ce rêve. Le vigilant, la commission de la vice-amirauté, les rues de Dunedin et le long voyage de retour vers le pays natal jusqu'à la vieille maison proche de Legeberg, il ne pouvait raconter. On l'aurait cru fou. Il allait écrire ce qu'il savait avant que la mort ne survienne. Mais sa femme ne devait pas deviner. La mort serait un bienfait si seulement elle parvenait à effacer les souvenirs. Tel était le document que je lus et qui maintenant repose dans la boîte de fer près du bas-relief et des papiers du professeur Angel. Ce compte-rendu que je viens de faire ira le rejoindre. Ce témoignage de la santé de mon esprit, où j'ai coordonné ce qui, je l'espère, ne sera plus jamais coordonné à nouveau. J'ai jeté les yeux sur tout ce que l'univers peut contenir d'horreur, et tant les cieux du printemps que les fleurs de l'été ne sauront, après cela, être qu'empoisonnés pour moi. Je ne crois pas, cependant, que ma vie sera longue. Mon oncle s'en est allé, le pauvre Johansen s'en est allé, et moi aussi, je m'en irai. J'en sais trop. Et le culte est toujours vivant. Cthulhu vit toujours, lui aussi, enfermé à nouveau dans le gouffre de pierre qui l'a protégé depuis que le soleil est jeune. Sa cité maudite s'est enfoncée une fois de plus, car le vigilant a navigué au-dessus du point où elle était apparue, après la tempête d'avril. Mais ses ministres sur la terre vocifèrent encore, font des simagrées et sacrifient toujours autour de monolithes coiffés d'idoles, en des lieux solitaires. Il doit avoir été pris au piège au moment où la cité s'engloutissait, alors qu'il se trouvait dans son noir abîme. Sinon le monde serait déjà en train de hurler de frayeur et de frénésie. Qui sait comment tout cela s'achèvera? Ce qui s'est soulevé peut s'enfoncer, et ce qui s'est enfoncé peut se soulever. Cette nature repoussante attend et rêve dans les profondeurs, et le délabrement gagne les cités chancelantes des hommes. Les temps viendront, mais je ne peux, ni ne veux y penser. Si je cesse de vivre avant d'avoir achevé ce manuscrit, je prie mes exécuteurs testamentaires de préférer la prudence à l'audace et de veiller à ce qu'il ne tombe jamais sous d'autres yeux.